journée en une heure, c'est le meilleur du tour. Christophe Cessieux.
L'Allemagne qui domine ce Tour de France. Cinquième victoire aujourd'hui. Troisième personnel pour un certain Marcel Kittel, la nouvelle star du cyclisme allemand. Il a tout d'une star. Il a une belle gueule. Il est costaud. Il a des grands yeux bleus. Et en plus, il va très vite. Il s'est même payé le luxe une nouvelle fois de battre aujourd'hui celui qui était considéré comme le roi du sprint jusque-là, un certain Mark Cavendish. Le cave est à la cave. En ce moment, on va en parler évidemment puisqu'ils sont de retour avec moi. Cyril Guimard, dis-le. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Christophe.
Luc Leblanc dit le chanteur limousin qui est à mes côtés.
Bonsoir voilà. Mon cher Christophe.
Et Thierry Bourguignon qui ne chante pas heureusement pour nous. Salut ouais. Thierry.
Bah, quand j'entends Luc chanter, je préfère me taire.
Ah oui, bonsoir messieurs. Il nous a bien cassé les oreilles hier soir. Messieurs, nous allons tout de suite nous remettre dans le direct. C'était cet après-midi sur la ligne d'arrivée ici à Tours. Un sprint de mètres remporté par Kittel.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Nous sommes très précisément à 10 km de l'arrivée de cette 12e étape du Tour de France. 10 km pour l'homme de tête. Juan Antonio Fecha, dernier survivant de l'échappée matinale. Ils étaient 5 tout à l'heure. Il est le dernier survivant. Et il réussit tout de même à reprendre un peu d'avance sur l'avant-garde du peloton, Fred.
Oui, Juan Antonio Fecha, coureur expérimenté qui a su conduire l'échappée pendant près de 210 km maintenant. Juan Antonio Fecha, 35 ans, passé sous casaque Vacansoleil il y a 2 ans. Lui, l'ancien coureur de l'équipe Ibanesto, de l'équipe Rabobank également, spécialiste des classiques et qui trouve ici, avec cette étape en direction de Tours, un faux air de classique des feuilles mortes. Lui, le spécialiste des courses pavées comme le Tour des Flandres, qu'il a terminé 3 fois à la 3e place. Spécialiste également de Paris-Roubaix, il a terminé à la 8e place cette année après avoir connu le podium sur l'Enfer du Nord. Juan Antonio Fecha, 35 ans, vainqueur d'une étape sur le Tour de France à Toulouse il y a 10 ans et qui compte 18 secondes. Il a réussi à accroître un peu son avance dans les derniers kilomètres. 18 secondes sur un peloton lancé à ses trousses à 9 km de l'arrivée. À l'avant-garde du peloton, on trouve les Orica Green Edge du sprinter australien Matthew Goss, parfaitement organisé. Au milieu de la chaussée, les Saxo Tinkoff avec Alberto Contador en 5e position, et puis à gauche on aperçoit les maillots bleus de la FDJ.fr. Nasser Bouhanni n'est plus là depuis l'étape de Montpellier, mais William Bonnet, après sa 5e place à Saint-Malo avant-hier, apparemment a su remobiliser les troupes.
Voilà, William Bonnet dont Marc Madiot parle avec beaucoup d'affection. Bien, il dit sûr. Que c'est un sacré coursier.
Ah oui.
Il s'est complètement dépouillé pour se mettre au service de Thibaut Pinot l'autre jour lorsque Thibaut était en difficulté dans les étapes des Pyrénées. Il est dithyrambique sur son coureur William Bonnet, qui a une belle petite pointe de vitesse. De là, Cyril, à se mêler à la bagarre des rois et des seigneurs du sprint, ça semble quand même un peu difficile, mais une place d'honneur, pourquoi pas.
À Saint-Malo, il prend tout simplement la 5e place en n'étant pas emmené du tout, en se battant tout seul au milieu de la mêlée, évitant d'ailleurs la chute de Tom Vellers. Il va très vite. Il est quand même un petit peu limité par rapport aux grands sprinters, mais il fait partie des coureurs qui peuvent se trouvant dans la, j'ai presque envie de dire, dans la bonne bordure, dans la bonne roue qui remonte, eh bien venir faire une nouvelle fois une place d'honneur. Et vous savez que le Tour n'est pas arrivé à Tours depuis 2005 et que Fletcher avait pris la 17e place en 2005 ici à Tours. Oh, étape gagnée par Tom Bonnen.
Les archives incroyables, les archives du druide, ça c'est incroyable.
Et
ça.
Le dernier vainqueur effectivement s'appelle Bonnen. Bonnen, ce n'est pas si loin de Bonnet. Et si William Bonnet créait la sensation tout à l'heure et remportait la première étape tricolore sur ce 100e Tour de France.
Une petite stat, Lucho, pour nous divertir comme ça, non ?
Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise ?
Oh, je sais pas, une petite stat ? Tu peux nous sortir une stat de tes archives ?
Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai fait une étape à Tours.
Bon, Thierry Marie l'avait également emporté à Tours, mais c'était beaucoup plus tôt, en sortant à 1,5 km de l'arrivée. Il avait résisté au peloton.
Ah oui, non, mais toi, dès que c'est au sprint, ça t'intéresse pas. Ouais.
Mais Lucho est quand même celui qui voyait le mieux le sprint, parce que les sprinters, les voient pas, ils sont au milieu. Mais lui, où il était placé ? Il voyait tout. C'est pour ça qu'il avait peur.
Je prenais le vent, comme ça, moi j'étais sûr de pas tomber.
Incroyable quand même, Fred. fait, cette équipe de la FDJ.fr, je le dis bien depuis le début, je me suis fait reprendre par Marc Madiot une fois depuis, vous avez vu, c'est impeccable. Cette équipe de la FDJ est devenue une véritable équipe de sprinteurs. Boigny, on en a parlé, William Bonnet, c'est pas mal. Et puis, il y a évidemment la petite pépite qui, pour l'instant, est encore en formation et qui n'a pas encore disputé le Tour de France. C'est Arnaud Démare qui, lui aussi, est annoncé comme l'un des futurs grands du sprint, hein, Fred.
Oui, bien sûr, on commence à avoir des automatismes. Deux méga sprinteurs, Boigny et Démare, ça aide effectivement à constituer un train sur le modèle d'une équipe comme Omega Pharma qui a tout fait pour emmener dans les meilleures conditions Mark Cavendish. Un train, c'est vrai que depuis plusieurs années, c'est indispensable, à tel point que Mark Cavendish a recruté, a poussé ses dirigeants d'Omega Pharma à recruter ces derniers jours Mark Renshaw, son ancien équipier au sein de la formation Aeroad notamment, connu pour son célèbre coup de casque il y a quelques années sur les routes du Tour de France. Tout ça pour protéger son cher Cavendish. Et bien Mark Renshaw qui avait décidé de rester chez Rabobank, devenu Blanco, devenu Belkin, pour voler de ses propres ailes, a bien compris qu'il lui serait plus profitable de rejoindre son meilleur ami Mark Cavendish, son meilleur coéquipier en tout cas. Ces deux-là ont des automatismes, et les automatismes, ils sont en train d'arriver chez FDJ.fr, où cette année effectivement on a recruté par exemple le Brésilien Murilo Fischer, spécialiste des lancements, on va dire un lanceur professionnel. Ce Brésilien, effectivement, on sait bientôt tout faire dans cette équipe française.
Échappée terminée, Juan Antonio Flecha rattrapé à l'instant même par l'avant-garde du peloton, toujours emmené par les coéquipiers d'Alberto Contador de la formation Saxo. On se dirige donc maintenant tout droit à 6 km de l'arrivée vers un sprint massif. Alberto Contador va-t-il se mêler au sprint? Non, vous ne vous inquiétez pas, il va vite se ranger tout à l'heure lorsque nous serons dans les rues de Tours, lorsqu'on aura passé les 3 km. Mais c'est vrai que les équipes de sprinteurs sont dans un deuxième rideau en quelque sorte, Fred.
Ouais, effectivement, on a longé le château d'Azel Rideau, et effectivement les rideaux se multiplient à l'avant du peloton. En première ligne, les Saxo Tinkoff mènent toujours la danse sous les yeux de l'équipe Orica Greenedge en deuxième rideau sur la droite de la route. À gauche, on aperçoit les Lotto Bilisol d'André Greipel. Dans la roue des Saxo Tinkoff, William Bonnet qui doit bien se demander ce qu'il fait là dans la roue d'Alberto Contador à 5 km de l'arrivée. Derrière, en troisième rideau, on a les Argos Shimano de Marcel Kittel. Et puis actuellement, à la hauteur des Argos, sur la droite, on a 6 équipiers de Mark Cavendish, les coureurs de l'équipe Omega Pharma, qui remontent bien gentiment Mark Cavendish. Chat est chaud et craint l'eau froide, et c'est vrai que les Omega, qui se sont un peu troués lors des étapes pour sprinteurs depuis le début de ce Tour de France, notamment vers Saint-Malo où Mark Cavendish était particulièrement isolé dans le final, semblent avoir tiré les leçons. Ils jouent un peu sur du velours, ils ont remporté l'étape hier avec Tony Martin, ils ont une victoire au sprint à l'actif de Mark Cavendish, et cette fois ils ont décidé de jouer les observateurs pour emmener au mieux dans le final leur bolide de Manx Man, le sprinter de l'île de Man, Mark Cavendish, qui a bientôt 28 ans, va viser sa 25e victoire. Attention, chute sur un rond-point qui tournait à droite, c'est peut-être Simon Gerrans, en tout cas un coureur de l'équipe Orica Greenedge, qui a chuté sur une plaque d'huile, semble-t-il, en tête du peloton. C'est le premier coureur du peloton lancé à 4,5 km de l'arrivée. C'est peut-être Lancaster. On va vérifier ça. En tout cas, c'est un équipier de l'équipe Orica Greenedge. Ce n'est pas un prétendant à la victoire dont la roue avant a chassé. Pas de bobo pour ce coureur qui s'est relevé très rapidement. Attention, messieurs, ça ne frotte pas encore, mais ça glisse. Il n'a pas plu depuis longtemps et les plaques d'huile sont en train de remonter sur les ronds-points.
4 km de l'arrivée, le peloton qui vient de franchir le Cher et qui se dirige directement vers Tours. Vous le savez, l'arrivée ne sera pas avenue de Gramont comme cela se fait habituellement depuis des années pour Paris-Tours, mais dans les faubourgs de Tours. 4 km de l'arrivée et toujours la formation Orica qui emmène son leader, toujours également les
Omega,
Mark Cavendish, les Omega, et dans un deuxième rideau la formation FDJ.fr, peut-être pour William Bonnet. Pour l'instant, les leaders du sprint sont bien à l'abri dans le peloton.
Tout le monde est là en premier rideau et en première position, les coéquipiers de Mark Cavendish, Sylvain Chavanel, tout dedans dehors, qui emmène le peloton, qui est en train de prendre une allure en file indienne. En deuxième position, le maillot blanc de meilleur jeune du Tour, Michal Kwiatkowski, le Polonais. Ils sont encore 5 coéquipiers pour emmener Mark Cavendish à hauteur du sprinter britannique. On aperçoit les maillots vert fluo de l'équipe Cannondale à bientôt 3 km de l'arrivée. Ce sont les Omega qui prennent en main les opérations. Ils ont joué les observateurs dans les 30 derniers kilomètres avant l'arrivée. Les Argos, les maillots blancs de Marcel Kittel sont en train de revenir à hauteur. Ça y est, on n'est plus du tout dans une conduite longiligne, rectiligne et sage du peloton. À 3 kilomètres de l'arrivée, ça frotte. À droite, les Omega. À gauche, les Argos. La lutte des sprinteurs a bel et bien commencé.
Et il y a du mouvement dans son peloton. Il y a des vagues dans le peloton et on voit le maillot jaune de Chris Froome qui tente de se mettre sur le côté gauche, qui évite les vagues. C'est évidemment un moment très dangereux, Cyril, lorsque le peloton arrive comme ça, lancé vers une arrivée au sprint, et on voit que les leaders se mettent vraiment dans la bonne position pour éviter d'être pris dans des chutes, mais on ne sait pas où est la bonne
chute. D'ailleurs, une grosse chute maintenant vient d'avoir lieu
avec beaucoup de coureurs impliqués. Une chute qui est intervenue à la hauteur de la 20e position. Pas de maillot distinctif, sinon celui de champion du monde de Philippe Gilbert qui est arrêté. C'est tombé très fort. C'est un coureur, semble-t-il, de l'équipe Vacan Soleil qui a peut-être emmené un leader. On va écouter. Le maillot jaune n'a pas été pris.
La formation Sky aussi qui est tombée. Il y a beaucoup de monde à terre. Il y a un enchevêtrement de vélos. Il y a des hommes qui restent à terre. Un coureur de la formation Lotto Bellisol qui a du mal à se relever. Mais il y a un enchevêtrement de vélos. C'est incroyable. C'est terrible.
Boissonnaguen a été pris dans la chute, le coéquipier de Christopher Froome. Il y a des coureurs qui restent au sol. On avait franchi la banderole des 3 km, me semble-t-il. Donc,
les coureurs
impliqués n'auront aucun retard sur la ligne d'arrivée, mais des bobos, très probablement, on fera les comptes sur la ligne. On est à 1 500 km de l'arrivée et Mark Cavendish compte encore 3 équipiers avec Dan Martin, avec Gerd Stegmans également, avec Niki Terpstra peut-être. En tout cas, 3 équipiers pour Cavendish, 2 pour Marcel Kittel. Kittel et Cavendish qui jouent des coudes avec dans la roue de Marcel Kittel le sprinter Alexander Kristoff. Il y a là également le maillot vert de Peter Sagan en embuscade. Je ne vois pas André Greipel, le champion d'Allemagne de l'équipe Lotto Bellisol.
Apparemment, il est dans la chute.
Il a été pris ou au moins retardé dans la chute. Greipel ne jouera pas pour une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France.
La flamme rouge du dernier kilomètre, encore 1000 mètres.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Voilà les coéquipiers de Marcel Kittel qui sont en train de remonter sur le côté gauche de la route. Les coéquipiers de Peter Sagan également. Marc Cavendish est bien placé. Tout le monde est en train de se placer pour le sprint, Fred.
Tout le monde sauf André Greipel qui ne réalisera pas la passe de 2. Les Argos Shimano sont encore au nombre de 3 à 800 mètres de la ligne d'arrivée. Encore 2 virages à négocier. Marcel Kittel en deuxième position, bien lancé par Tom Wheeler, son équipier chez Argos Shimano. On est à 500 mètres de la ligne. Bientôt un ultime virage à droite à négocier parfaitement en 1 Wheeler, en 2 Kittel et en 3 Gerd Stegmans qui va lancer pour Mark Cavendish. Cavendish parfaitement lancé par le géant hollandais. Mark Cavendish qui va prendre les devants à 300 mètres de la ligne. Il va déboîter dans sa roue. Marcel Kittel en 3 Peter Sagan le maillot vert. Mark Cavendish qui est lancé tel une balle.
Cavendish, ça va être terrible ça.
Parfaitement profilé Mark Cavendish qui va remporter probablement cette victoire à Tours. Encore une photo finish pour départager
Mark
Cavendish de Marcel Kittel. Ça fera 3 fois que Marcel Kittel vient sauter tout le monde. Si d'aventure Marcel Kittel.
Kittel qui l'emporte. Il semble qu'il passe bien, oui Kittel. Il passe de quelques centimètres. Bien dans l'abri du cave. Et il a débordé sur les 50 derniers mètres. Et Cavendish n'a pas pu finir.
Ouais, Cavendish qui s'est retrouvé trop tôt dans le vent alors que Kittel était bien à l'abri derrière lui. Et les deux hommes qui jettent leur vélo sur la ligne d'arrivée. On n'a pas eu encore la photo finish officielle, Cyril.
Pour moi, c'est officiel. Troisième Sagan. Hein.
Ouais. Avec Peter Sagan qui termine troisième. Une fois une place d'honneur pour Peter Sagan. Donc, a priori, victoire.
Voilà, Greipel qui franchit la ligne actuellement. Il était donc bien dans la chute.
Ouais, André Greipel, le gorille de Rostock, qui a donc été pris dans la chute. La victoire. On va avoir confirmation dans quelques instants car il y a photo finish. Et pour l'instant, aucun classement officiel ne nous est communiqué. Donc,
le regard de Cavendish vers
qui il semble battu.
Significatif.
Ouais. Oui. Terrible pour Cavendish hein, qui va de regret en regret. Et ouais, on voit les
attention, ce n'est pas Kittel.
Ah ouais, non.
Non, c'est Degen Kolb.
C'est Degen Kolb
qui a bien compris que son coéquipier avait franchi la ligne.
Attardé en ce moment, les bras levés. Deux Argos Shimano semblent vainqueurs aujourd'hui. Kittel qui a devancé sur la ligne d'arrivée pour quelques millimètres. A priori, Mark Cavendish et Peter Sagan. Et son coéquipier chez Argos, John Degenkolb, qui bien attardé. Bardet manifeste sa joie sur la ligne d'arrivée. Il fait quasiment carton plein Marcel Kittel, qui effectivement, et Cyril avait très bien fait de le souligner tout à l'heure dans le direct, est un vainqueur en série. Lui qui avait remporté 4 étapes sur les 4 jours de Dunkerque en 2011, 4 étapes sur le Tour de Pologne. Il est parfaitement lancé pour réaliser la passe de 4 également sur le Tour de France. 3e victoire d'étape pour le jeune sprinter allemand âgé de 25 ans qui est en train de mater la concurrence et qui est en train de devancer sur la ligne d'arrivée et au statut de meilleur sprinter du monde des coureurs comme Mark Cavendish ou André Greipel. Kittel, dont on parlait tout à l'heure pendant le direct avec Pierre-Yves Leroux, qui amène un vrai air frais, du sang neuf au sprint mondial et au cyclisme allemand.
5e victoire d'étape pour les Allemands depuis le début de ce tour. On en parlait tout à l'heure, on était à 4, voilà à 5. Nous voilà rendus à 5.
C'est le Tour d'Allemagne, quasiment. Ouais. Un sprint perturbé, on le rappelle, par une chute qui est intervenue à moins de 3 km de l'arrivée. Une chute qui a impliqué une quinzaine de coureurs à 20 km, à 3 km de l'arrivée. Et avec effectivement une chute qui est intervenue à hauteur de la 20e place du peloton.
Voilà, 17h sur RMC. Alors, les prochaines infos, on les aura tout à l'heure à 18h. Oui, Cyril.
Je suis quand même assez surpris des risques que prend Chris Froome.
Termine 14.
Alors que la chute avait eu lieu, donc il avait juste à accompagner. Il est venu frotter un moment dans les 12, 13, 14e position, à un point qu'il a failli aller par terre. D'ailleurs, il s'est un petit peu fâché. Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec le maillot jaune dans les 15 premiers du peloton, alors qu'on est à 1,5 km de l'arrivée.
Vigilance.
Bon, là, on n'est plus vigilant.
Pour ne pas être pris dans une deuxième chute, peut-être.
Il n'a pas besoin, il y a la première.
C'est vrai.
Peut-être vise-t-il le maillot vert, sait-on jamais.
Peut-être, non, mais j'avoue que si je suis son directeur sportif,
Cyril,
il se prend une avoine ce soir.
On est avec Pierre-Yves Leroux, derrière la ligne d'arrivée, avec un champion du monde, me semble-t-il.
Ouais, Philippe Gilbert.
Ça sera certainement plus plus de sélection ce jour-là, ouais.
Merci Philippe.
Philippe, juste un mot, Philippe, on est en direct sur RMC. Comment vous avez vécu cette fin d'étape? C'était encore très nerveux. Est-ce que vous avez réussi à échapper à la chute?
Ouais, extrêmement nerveux. J'étais juste derrière, donc j'ai pu m'arrêter. Le coureur derrière moi ne s'est pas arrêté. Il est rentré dans le tas de coureurs. Donc c'était assez impressionnant. Le bruit extrêmement violent. Mais bon, heureusement, j'ai pu éviter. Et j'ai vu des coureurs assez lourdement touchés dans cette chute, comme Boissenhagen et des coureurs de Lotto aussi. Donc bon, j'espère qu'ils n'auront rien de cassé et qu'ils pourront prendre le départ demain. Mais ouais, on voit encore une étape très nerveuse et on voit que beaucoup de sprinteurs prennent énormément de risques.
Quel bilan vous tirez de cette première partie du Tour de France à titre personnel?
Pour moi, assez difficile. Au début, on avait essayé de miser sur Cadel Evans pour le classement général. Bon, il s'est raté dans les Pyrénées. Donc, voilà, il est pour le moment 14e, mais très loin, à plus de 6 minutes. Donc, voilà, ça va être difficile. Mais maintenant, je vais essayer de me concentrer sur une étape. Et si ça peut sauver le Tour, ce serait bien. Ouais.
Voilà, et puis on imagine que vous êtes bien encouragé avec ce maillot de champion du monde au bord des routes.
Merci. Oui, bien sûr, ouais. C'est super.
Juste un dernier mot, Philippe. Oui, j'écoute la question, dites-moi.
Oui, qu'est-ce qu'on ressent quand on évite une chute comme ça? Est-ce qu'on a la trouille après pendant quelques minutes?
Est-ce qu'on a les jambes coupées un peu, Philippe, quand on entend ce bruit derrière? Est-ce que ça fait peur et...
Bon, disons qu'on est habitué, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Et puis, on pense qu'une chose dans ce cas-là, c'est de freiner, d'éviter. Et surtout que le coureur derrière a le même réflexe, parce qu'on est à moins d'un mètre l'un de l'autre. Donc, si le coureur derrière n'a pas le même réflexe, ça veut dire qu'il vous emmène dans la chute aussi. Donc, vous avez peur parce qu'il y a une chute qui arrive devant, mais vous avez peur aussi d'être embouti par derrière. Donc, je veux dire, c'est toujours un moment très délicat à passer.
Les auto-tamponneuses. Merci, Philippe.
Une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour. Christophe Cessieux.
Ah, il a l'œil, hein. Il a l'œil, le druide, hein. On lui fait pas, hein. Nous avions annoncé Cavendish avec Fred, mais Cyril, du haut de sa tribune commentateur, avait tout vu. Marcel Kittel qui s'impose plus que d'un boyau, hein. Il s'impose
on a la photo finish.
Il adore les photos finish, Lucho. Bon, bref, en tous les cas,
victoire
assez probante. En tous les cas, on va.
Tout est pas grave,
messieurs. C'est pas très grave. Concentrons-nous. Donc, sur la victoire de Marcel Kittel qui s'impose ici. Troisième victoire d'étape, c'est un jeune garçon qu'on a découvert, enfin que le grand public a découvert ici sur les routes du Tour. Ça fait un moment quand même qu'il écume les sprints.
Bah, il est à 15 victoires par an depuis 3 ans.
Ah, c'est quand même pas mal. Hein, 15
c'est quand même pas mal.
L'an dernier, il avait fait un passage express sur le Tour. Il avait été victime d'une gastro-entérite et avait dû quitter le Tour dès la cinquième étape. C'est souvent le cas des sprinteurs qui découvrent le Tour de France. On a vu ça cette année avec Nasser Bouhanni. Mais là, il est arrivé en costaud. Il a remporté la première étape à Bastia au terme d'un sprint un peu mouvementé qui avait vu pas mal de coureurs retardés, dont Cavendish. Avant-hier, il s'est également imposé. C'était à Saint-Malo. Là aussi, il y a eu un petit problème dans le sprint avec ce coup d'épaule donné par Cavendish à Villers, coéquipier de Kittel. Mais Kittel s'était imposé. Et là, aujourd'hui, sans souci aucun, il s'est imposé à la loyale. Cavendish battu normalement par Marcel Kittel, Cyril. Hein,
oui, battu sans. Il n'y a pas discussion. J'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Bon, c'est vrai que c'était pas évident si on n'est pas juste sur la ligne pour pouvoir juger. Mais il y a quand même à peu près 15 à 20 cm, on va dire presque une demi-roue. Pour un sprint tel qu'il a été conduit là, c'est beaucoup, c'est peu et c'est beaucoup. Mais Kittel a fait un sprint, j'ai presque envie de dire, un sprint parfait. Cavendish ne fait pas de faute, mais Kittel bien calé dans sa roue. Vous savez, les sprinters, si vous les emmenez d'un tout petit peu trop loin et qu'ils peuvent faire 50 mètres à 70 mètres dans l'aspiration, bien, ils vous donnent une petite correction en passant.
Ouais, parce que là, il a remonté Cavendish, c'est pas chose
c'est
aisée,
très
hein.
rare, c'est ouais. très rare. On a rarement vu quelqu'un remonter Cavendish une fois qu'il est lancé. Et souvent, d'ailleurs, non seulement on le remonte pas, mais il creuse l'écart progressivement jusqu'à la ligne. Et là, non seulement il a pas creusé l'écart, mais Kittel est resté bien ancré, bien fixé sur le sillage de l'anglais, bien dans l'aspiration. Il a déboîté. J'ai presque envie de dire un sprint comme on les voit sur la piste.
Ouais, mais je pense, Christophe, que les arrivées comme celle d'aujourd'hui ou avant-hier, elles sont moins adaptées à des sprinteurs comme Cavendish qui, lui, a besoin d'une longue ligne droite, beaucoup plus longue que celle d'aujourd'hui et d'avant-hier.
450 mètres.
Ouais, et pour moi, c'est pas suffisant pour Cavendish. Il lui faut peut-être 700 mètres, 800 mètres de ligne droite pour qu'il puisse s'exprimer à
Saint-Malo. Il avait tout ce qu'il fallait. Hein.
Bah, il y avait un virage.
Il y avait un virage sur la ligne.
Thierry, je pense que on retrouve pas le cave des années passées, hein, quand même aujourd'hui. D'habitude, quand il décollait de la roue, ses adversaires, quand il prenait le dernier relais, quand il lançait son sprint, on le voyait partir et il prenait de suite 1m50 sur tout le monde. Et là, c'était très difficile de revenir sur lui. Alors que là, bah, on a vu, il lance le sprint, mais en fait, c'est lui qui lance le sprint.
Mais est-ce qu'il a les mêmes équipiers qu'avant aussi pour
oui,
l'emmener correctement?
C'est lui qui lance le sprint peut-être d'un peu loin et Kittel est dans
ça
la roue.
Il est un peu donc, nerveux. On a l'impression qu'il est un peu nerveux.
Il passe
à côté de victoire d'étape. Hier, il se fait insulter et je sais. Il est mis en cause par les suiveurs et par les coureurs du peloton. Tout ça n'est pas pour assurer la sérénité de Marc Cavendish. Alors, Cavendish a-t-il trouvé son maître? On a posé la question à Marcel Kittel. La réponse est assez courte. Écoutez.
C'est difficile à décrire. C'est tellement génial. Je me sens si bien. Je suis tellement fier de la manière dont l'équipe a travaillé. Battre les meilleurs sur cette étape du Tour de France dans un tel sprint, c'est juste énorme. Est-ce que je suis le nouveau boss du Tour? Vous savez, je n'aime pas utiliser ces mots. J'ai simplement montré que je pouvais battre les meilleurs et ça, j'en suis très fier.
Voilà, il reste modeste, Marcel Kittel. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et demain, il y aura un autre sprint. Tiens, alors, on a posé la question à Samuel Dumoulin qui est l'un des meilleurs sprinteurs français, coureur de la formation AG2R. Pour lui, est-ce que Kittel est en train de passer devant Cavendish? La réponse.
C'est un style de sprinter un peu différent que Cavendish. Et lui, bon, il est très rapide, Cavendish, mais il est aussi à droite. Il sait soit être emmené et puis voilà, placer son sprint, mais il sait aussi sortir de situations plus compliquées. Il a vraiment la vista du sprinter, l'adresse. Tel, il joue plus sur le physique, mais bon, faudra voir. Cavendish, ça reste quand même la référence pour le moment.
Voilà, Cavendish qui reste encore la référence. On ne bouscule pas, on ne balaie pas comme ça en un sprint ou deux sprints une domination aussi outrageuse que celle de Cavendish. Il reste encore évidemment un costaud. Il a que 28 ans, hein, Cavendish, Cyril. C'est pas encore un vieux monsieur
25.
Du sprint. Hein. Non, Cavendish, 28.
Ah, Cavendish,
Kittel, 25,
pardon, oui. Non, à 28 ans, on est un sprinter est au sommet de, logiquement, au sommet de son art. Surtout qu'il va. qu'il a acquis un maximum d'expérience, même si des fois ça lui sert pas de trop. Mais ce qu'on peut noter cette année, et là je suis pas tout à fait d'accord avec avec Thierry, c'est que c'est la première fois où il a autant d'adversité dans les arrivées. Je pense pas que le CAV va beaucoup moins vite. Peut-être qu'il est un petit peu émoussé.
Non, il n'a pas le coup de rein. C'est le coup de rein qui était caractéristique au CAV.
Oui, mais
quand il prenait son relais, du moins quand il lançait le sprint, il décollait tout le monde de la roue.
Oui, mais si tu prends Kittel, il a pratiquement autant de victoires, pas obligatoirement aussi importantes, pratiquement autant de victoires que Cavendish au même âge. Mm-hmm. C'est un coureur qui gagne entre 15 et 18 courses par an. Alors, mais comme on le mettait pas sur le Tour de France, où l'an dernier il y est venu, mais malheureusement il était malade, il a quitté le Tour très tôt. Il a un Kittel qui arrive emmené par Degenkolb. Or, Degenkolb va pratiquement aussi vite que lui.
Laurent nous appelle au 32-16. Il voulait nous donner son avis sur Cavendish et Kittel. Bonsoir, Laurent.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe.
Salut, Laurent.
Écoutez, moi, je suis content. Je suis content pour Kittel parce que je pense que je suis de l'avis de Bourgui. Moi, je pense que le Cavendish, il va moins vite. Il va moins vite. L'année dernière, l'excuse, c'était de dire Wiggins, Froome, le maillot jaune dans l'équipe et tout, personne pour l'emmener sur le final. Là, cette année, il a quand même une grosse équipe, une équipe qui est capable de se sacrifier pour lui. Et moi, je suis désolé, mais je pense que ça va toujours aussi vite, mais qu'il a plus la giglette dans les 150-200 derniers mètres. Ouais. Et ça se voit à l'écran. Ça se voit à l'écran. En plus, quelques gestes déplacés qui prennent mauvaise tournure, qui sont gênants si moi j'étais sponsor, c'est un peu déplorable. Mais bravo Kittel.
Ouais, bravo Kittel, effectivement. Il faut noter quand même que Mark Cavendish a décidé de récupérer son ancien poisson pilote, Mark Renshaw, vous vous souvenez, c'est le garçon qui mettait des coups de casque, dans les sprints.
il est encore plus badant que
Cavendish, et il sera de nouveau probablement coéquipier de Cavendish la saison prochaine.
Il veut refaire son clan. Sicilien veut refaire son clan.
C'est-à-dire qu'il voit qu'il a un peu d'adversité. Si son poisson pilote lui fait un peu de ménage, ça va aller plus facile.
Si vous avez bien regardé le sprint de Saint-Malo, il est dans la roue de son poisson pilote qui est quand même, à mon avis, l'un des meilleurs. N'oubliez pas que c'est celui qui a emmené McEwen, Stigman. Stigman l'a placé, a voulu le placer dans l'étape de Saint-Malo. Il l'a remonté. Stigman est remonté jusqu'à la deuxième position, sauf que Cavendish a laissé Stigman partir pour venir se mettre dans la roue de Velers. On sait ce qui s'est passé après. Et est-ce que physiquement il est au même niveau que les autres, ou Stigman n'allait pas trop vite pour lui et l'a mis un petit peu dans le rouge?
C'est ce qu'on te dit depuis le début là. C'est qu'il est moins bon.
Le monsieur te dit que c'est comme ça. Tu as vu? Non mais il se rebelle.
On y revient.
Oui, mais le problème c'est qu'à Marseille il avait la même giclette que d'habitude.
La giclette, belle expression.
Il a gagné, mais
il y a personne dans la roue. Hein.
La giclette, ça veut dire quoi pour les Béotiens?
C'est la capacité d'accélération de sortir.
Il décolle de la roue les adversaires.
Très bien.
C'est l'explosivité.
T'avais la giclette, toi, Thierry?
Non.
Ben non, toi.
Dans l'école, peut-être.
Oh non, même pas.
Et Lucho, il avait la marcasse.
Disons que Thierry et moi, Cavendish passe la ligne, que nous, on est encore à 100 mètres. Quoi.
Non, et puis on ne va pas embêter les mauvais garçons.
Vous n'allez pas vous mêler à la bagarre. Vous êtes des gentils, vous n'êtes pas des.
Non, les méchants. Ça les énerve.
Très bien, messieurs, on va revenir dans un instant. Toujours ici en direct de Tours. On va aller faire un petit tour, si vous le voulez bien, à l'hôtel de l'équipe Sojasun. Sojasun, dont le manager est Stéphane Hello, avec notamment l'un des coureurs de la formation, Julien Simon, qui a loupé le maillot jaune en début de Tour de France pour une petite seconde. Il nous racontera cette expérience. L'équipe Sojasun, qui est une équipe française présente dans ce Tour de France.
Toute une journée en une heure, c'est le meilleur du Tour. Christophe Cessieux.
Nous décryptons, nous débriefons le Tour de France dans l'intégral Tour avec toute la Dream Team réunie à mes côtés. Cyril Guimard, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon. Évidemment, nous avons évoqué le sprint de Marcel Kittel. On va maintenant s'intéresser à une équipe française qui marche pas mal dans ce Tour de France. Certes, il n'y a pas eu de victoire, mais bon, il n'y a pas eu de victoire encore pour les Français. Mais en tous les cas, elle est à l'attaque tous les jours, cette équipe. C'est la formation Sojasun. On est en direct de l'hôtel de l'équipe Sojasun avec Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut Christophe.
Alors, il est 19h28, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, on est arrivé depuis quoi? 2h30, l'étape est terminée, les coureurs sont rentrés, ils sont au dîner, au massage?
Alors, pas au dîner, nous on est presque au dîner puisqu'on est installé dans la salle à manger de l'équipe avec le couvert qui est mis, on n'a pas le menu encore, on pourra peut-être vous dire ça dans quelques minutes. Et Julien Simon vient de terminer lui son massage, il est avec nous, il y a Stéphane Hollot qui est à côté de nous également qu'on pourra entendre dans quelques instants. Julien, le massage ça dure 45 minutes, une minute, comment ça se passe déjà? Il y a plusieurs phases dans cette période là.
C'est vrai qu'on arrive du bus, il y a souvent Catherine qui nous donne nos clés de chambre et puis après on pose nos sacs. Et puis ça dépend, un soir sur deux, je passe premier ou alors après c'est Cyril qui est premier, on tourne une journée sur deux. Et puis voilà, après c'est trois quarts d'heure de massage. Avec, j'aime bien moi finir avec Antoine par 10 minutes, un quart d'heure d'étirement. Je préfère quand il m'étire que ça soit moi. Et puis voilà, après on va manger, on attend un peu tout le monde, on va manger vers 20h ou 21h quand on arrive tard. Donc c'est à peu près ça le rythme pendant 3 semaines.
Le privilège du leader, c'est de passer au massage en premier, Julien, c'est ça hein?
Non, mais du coup on fait... Moi je sais pas comment ça se passe dans les équipes comme Contador, tout ça, mais c'est vrai que nous on tourne un jour sur deux, comme on est que deux par masseur maximum, donc ça va, ça se passe pas mal, on n'est jamais trop tard, jamais après 10h, donc c'est toujours agréable.
Bon, comment tu te sens après avoir déjà dépassé la mi-tour? Est-ce que tout va bien? Est-ce que la récupération se fait? Est-ce que tu es d'attaque pour les grandes étapes qui nous attendent encore? Évidemment les étapes dans les Alpes qui arrivent, la troisième semaine qui fait peur à tout le monde. Est-ce que tu la crains cette troisième semaine?
Ouais, je pense un peu comme tout le monde, c'est vrai que la troisième semaine, surtout après le chrono là du jeudi, vendredi, samedi, ça va être trois étapes assez intenses, donc on y pense toujours un petit peu, même si on essaie de penser aux étapes au jour le jour. Et puis c'est vrai que va y avoir encore une étape importante samedi à Lyon et le lendemain de la journée de repos à Gap, donc c'est vrai que maintenant les étapes on les compte où il y a des opportunités, on les compte sur les doigts d'une main, donc il va falloir être opportuniste et avoir les jambes surtout, je pense. C'est vrai qu'après on va pas se prendre de la tête sur les... Voilà, aussi pour les grimpeurs de chez nous, il va falloir être aux avant-postes, mais nous, ça va être surtout limiter la casse.
Ouais. Qu'est-ce que tu vises, Julien? Une victoire au sprint? On a vu que t'es bien placé dans les sprints à chaque fois. Tu termines encore 13e aujourd'hui, juste devant le maillot jaune d'ailleurs. Hein. C'est pas mal. Ouais. Terminé. Il était juste dans ta rose. C'est bien de devancer le maillot jaune, non? Ça serait pas mal d'arriver sur les champs de
la base. Ah oui, ouais, non, mais c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, on voulait emmener avec Jean-Marc Marino Cyril Lemoine parce que en plus, on arrivait chez lui. Là, il est tout en jaune. Donc voilà, après, ça s'est mal.
Ouais, malheureusement, il a chuté.
Voilà, il y a eu une chute sur la droite, mais du coup je me suis retrouvé, on n'était plus qu'une vingtaine pour le sprint, mais c'est vrai que voilà, après je suis plus suivi, j'ai pas pris de risque dans les deux derniers virages à droite, et c'est vrai qu'une fois que t'es trop loin, c'est un peu
ouais.
C'est mort.
Julien, est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça t'a surpris justement de voir le maillot jaune de Chris Froome aussi bien placé dans le sprint final? Est-ce qu'il prend pas des risques à être à cet endroit-là de la course?
Ouais, c'est vrai que ça m'a un peu surpris dans un virage où il y a eu le green edge qui est tombé là. Il nous a frotté un peu avec Cyril et j'ai été un peu surpris qu'il vienne se mêler voilà au sprint. Après au final il a eu raison parce qu'avec la chute il a quand même eu chaud parce que Bossenhagen lui est tombé sur la droite. Donc je pense qu'il s'en tire bien. Après il est tellement fort, je pense que il se pose pas trop de questions lui.
Évidemment. Julien, toi tu es passé tout près de ce beau maillot jaune hein. Lors des premières étapes du Tour de France, tu étais deuxième, troisième au général à une seconde seulement de ce maillot jaune. Est-ce que tu en as rêvé la nuit de ce maillot jaune? Est-ce que ça restera un regret éternel?
Ouais, je sais pas si c'est un regret éternel, mais c'est vrai que après j'y croyais plus trop quand Backlund a gagné, c'est vrai que comme il avait une seconde d'avance, je savais que le lendemain ça allait être compliqué puisqu'on allait sûrement arriver en encore une petite centaine au sprint. Donc après c'est vrai qu'on est pas passé loin de porter le maillot jaune dans l'équipe. Ça aurait été vraiment une super histoire, mais c'est vrai que voilà, après on retient qu'on a fait un bon début de tour et qu'on continue toujours à être présent, et c'est ça le plus important.
Évidemment. Cyril Guimard a quelque chose à te dire.
Julien, je regardais avec beaucoup d'attention, tu t'en doutes, le final des courses, puisqu'on les commente. Et dans cette étape où finalement tu es privé du maillot jaune avec l'arrivée de Backlund avec une seconde d'avance, et je regardais ce final et je comptais les coureurs de votre équipe. Je crois que vous étiez pratiquement au complet. Et quand tu t'es refait ton petit film de ce final d'étape, est-ce que à un moment tu t'es pas dit zut, si seulement un équipier avait pris un relais, j'aurais été maillot jaune?
Ouais, bah c'est vrai qu'avec les six, on peut faire.
Tout à fait, tout à fait, je suis d'accord.
Mais... C'est vrai que oui, en haut de la dernière difficulté.
Vous étiez tous là.
Ouais, on était tous là et on avait mis une stratégie en place, c'était de rouler à côté de l'équipe du leader avant le dernier radar. Ouais, où il y avait le radar là, et voilà. Après, on a eu, je pense, ça a joué un peu. Il y a Julien Alfares qui a crevé avant cette difficulté. C'est vrai que comme lui, il frotte bien, il marchait bien. Je pense que c'est vrai que c'est. S'il avait été là, ça se trouve, on serait arrivé au sprint pour la première place et ça aurait tout changé. J'aurais peut-être pris le maillot le lendemain, mais bon, après.
Oui, parce que c'était un relais à prendre. Alors après, on peut toujours refaire l'histoire, mais c'est vrai, quand moi j'ai regardé ça, et je l'ai dit d'ailleurs le soir après l'étape avec toute l'équipe de RMC, je dis, c'est quand même dommage, à quoi ça tient et je crois que ça aurait changé toute ta vie.
Ouais, c'est sûr, porter le maillot jaune, Stéphane,
pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît.
Ne remue pas, c'est vrai, t'es pas sympa, là,
il est pas
Cyril,
sympa.
Là.
Le Julien, pauvre, putain, laisse tomber, là. C'est les anciens, comme ça, il faut toujours qu'ils reviennent en arrière. Regarde devant, fais-nous plaisir de temps en temps, comme tu fais avec ton équipe jusqu'à présent.
Thierry.
C'est gentil. Hein.
Thierry,
je vais
répondre à Thierry quand même. Bon. Tu sais pourquoi on devient fort? Collectivement et individuellement dans une course, parce qu'on est capable de regarder derrière ce qui s'est passé.
Il n'y a qu'en
regardant ce qui est derrière qu'on peut progresser.
Oui, oui. Mais ils l'ont analysé avant toi, hein, je pense.
Bon, ben d'accord. Donc je suis un imbécile,
non,
alors.
On comprend, Julien, tu comprends l'analyse de Cyril Guimard qui a quand même amené quelques champions en jaune à Paris. C'est vrai que c'est intéressant d'entendre cette analyse-là aussi.
Ah oui, non, mais c'est clair. Même Stéphane, on l'avait dit aussi, Jean-Marc Marinou, on avait analysé ça, mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est comme ça, c'est fait. On essaye.
Non, mais après,
faut passer
à autre chose. Mais tu as l'étape de Lyon maintenant.
Stéphane nous en parlera tout à l'heure parce que lui, il l'a porté le maillot jaune et ça a changé sa vie. Hein, il aimerait bien que ses coureurs aussi portent le maillot jaune. Hein,
Julien. Je pense, ouais. C'est sûr que oui, lui, il a porté le maillot, Stéphane, donc il sait ce que c'est. Après, voilà, on va essayer de continuer comme ça. Il nous reste encore quelques opportunités et on va essayer de les saisir.
Lucho, Luc Leblanc, tu as envie de
salut,
dire
Julien.
Quelque chose?
Salut. Non, parce que je regarde un petit peu, c'est ta sixième année pro, c'est ça, hein, Julien?
Ouais, je crois que
ouais,
c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et je voulais simplement te demander, par rapport à ta progression, par rapport à ton avenir, bon, c'est sûr que l'équipe de Stéphane, c'est une très belle équipe, Continental Pro, mais ton avenir, tu le vois comment? Intégrer une équipe Pro Tour pour pouvoir peut-être avoir peut-être plus d'objectifs, je dis pas que t'as pas d'objectifs, hein, bien au contraire, mais peut-être pour avoir une, parce que tu es en pleine progression encore, tu n'as que 27 ans, donc tu es en pleine maturité, et peut-être de changer de cap et de...
Il va être content, Stéphane Lolo.
Je sais qu'il est là, Stéphane.
Il va t'en parler des pays.
Mais Stéphane, il a vécu la même chose, hein. De toute façon, il sait très bien que pour peut-être prendre du galon, aller dans des plus grosses équipes, entre guillemets, pro tour, pour faire davantage peut-être de courses et être sélectionné dans les Coupes du Monde. Voilà. C'est vrai que c'est l'avantage pour les pro tours. Je dis pas que Stéphane ne fait rien. Bien au contraire, il se bat pour essayer d'augmenter son budget et de pouvoir accéder aux plus grandes courses au monde. Voilà. Bah après, c'est un objectif d'avenir, quoi. Et Stéphane le comprendra bien.
Julien, la réponse.
C'est vrai qu'on espère toujours, même Stéphane, je pense qu'il espère que l'équipe va continuer à grandir et je pense qu'il travaille pour ça. C'est vrai que d'être invité d'office toutes les Coupes du Monde comme Flèche Wallonne, Liège ou toutes les Coupes du Monde de l'année, c'est vrai que c'est super important pour progresser. Cette année, c'est quand même la troisième fois que l'équipe fait le tour. C'est sur des courses comme ça qu'on progresse et c'est vrai que pour se faire la caisse, comme on dit dans le milieu, il faut enchaîner les grosses courses. Et c'est vrai que j'espère que Stéphane, on arrivera à progresser avec l'équipe à ce niveau-là.
Évidemment. Merci Julien d'avoir été avec nous. On te laisse partir dîner, fin du massage, se reposer un petit peu.
Salut,
bonne fin de tour et bravo Julien d'avoir si bien porté les couleurs de Saint-Jacques depuis le début de ce Tour de France. Pierre-Yves, je crois que Stéphane
a tout entendu.
Il a tout entendu. Maintenant, il va mettre deux baffes à Lucho. Connaissant Stéphane,
il doit être
Stéphane,
hein,
quand même. Non, mais non, du tout. Je pense que l'objectif de Stéphane, c'est de faire un pro tour aussi plus tard.
Stéphane,
il est
est parti en fait. Non, je plaisante.
Le il a fait dans sa culotte.
Mais non, arrête.
C'est que le breton est le breton peut être
dur sur l'homme. Breton.
Le breton peut être con.
Non, mais en même temps, en même temps, je fais de la pub à Stéphane.
Voilà. Ah ouais, comme il essaye de se rattraper. Ça va, Stéphane?
Oui. J'aime bien les airs de violon de Lucho là.
Bon Stéphane, on est ravis de t'accueillir. Stéphane, on le disait tout à l'heure, toi tu as porté le maillot jaune sur les routes du Tour. C'est vrai que Julien il est pas passé loin. Tu as dû en rêver hein, de voir un de tes coureurs comme ça en jaune sur les routes du Tour.
Bah, j'en ai rêvé et puis j'en ai cauchemardé le soir d'Ajaccio, oui c'est clair. Bah, parce oui. que l'analyse de Cyril, évidemment, il y a eu une petite remontée de pendule pour deux jeunes garçons qui sont néophytes dans le peloton et du Tour en tout cas, et puis qui n'ont pas percuté justement l'importance qu'il y avait de quitte à prendre une cassure effectivement, mais de donner un coup de main à Jean-Marc Marino, Anthony Delaplace, qui eux avaient complètement compris l'enjeu qu'il y avait. Mm-hmm. Et une seconde parfois c'est plus dur à rattraper qu'une minute, en tout cas sur un début de Tour. Et bah oui, on est passé à côté, ce sera un regret en tout cas.
Ouais. Stéphane, toi tu as porté le maillot jaune sur les routes du Tour il y a de cela quelques années lorsque tu étais coureur. Est-ce que ça a changé ta vie le fait de porter un jour le maillot jaune sur les routes du Tour?
Pour changer ma vie, non, je pense que c'est quelque chose d'important dans une carrière, mais le sport cycliste ça reste qu'un passage. Oui, c'est important, c'est une trace, c'est une ligne sur un palmarès, c'est ce dont se souvient beaucoup de gens. Mais non, je peux pas dire que ça a changé ma vie.
Ça a changé ta carrière, Stéphane, c'est Thierry.
Oui, ça a changé ma carrière. Ça a été plus compliqué.
Ouais, ça t'a relancé, ça t'a lancé.
Oui, j'étais champion de France aussi avant, mais
oui.
Non, ouais, c'est un bon palmarès quand même.
Ah ouais.
C'est quelque chose d'important. Je vais pas le renier, mais je pense que la vie ne repose pas non plus. On fait que du sport. Hein, c'est... Mm-hmm.
Non, mais ta vie cycliste, hein, on parle là. Hein,
oui, bien sûr. Voilà, ça change, ça donne, ça permet d'aller demander.
Ouais, mais ça t'ouvre plus de portes quand même.
Oui, forcément, bah ça.
Une carrière, un palmarès, voilà.
Oui, est-ce que quand on veut monter une équipe, justement, le fait d'avoir eu un palmarès en tant que coureur cycliste, est-ce que ça aide, Stéphane? Est-ce que ça aide ça?
Bah, faudrait demander à Lucho.
pour l'instant, merci Steph.
Et boum, 1-0, merci. 1-0. Merci. Non, un partout, balle au centre.
Merci. Bah ouais, c'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille dessus. Mais j'ai pas eu la chance de Stéphane, c'est vrai qu'il est je suis admiratif par rapport à ce que fait Stéphane, parce que c'est vrai que pour trouver des partenaires c'est vraiment pas évident. Ça fait 10 ans que je travaille dessus, mais tu sais, tu me connais un petit peu, on a pédalé ensemble quand même, pas dans la même équipe, mais je suis tenace quoi. Je vais y arriver.
Ah, le Limousin est aussi tenace que le Breton, hein, ça c'est sûr.
Ouais, non mais c'est clair, c'est pas simple. Je pense que
si tu veux, je peux te trouver un sponsor, hein. J'en ai un, je suis en pour parler avec un, je peux te l'emmener si tu veux, hein. On peut discuter.
Non, mais nous on est parti de zéro. Moi, je me suis réconcilié avec le vélo grâce aux jeunes. On est parti vraiment de. C'est sur un quiproquo et puis bah, j'y ai mis le doigt et le bras y est passé. Je pense que le vélo connaît une vraie métamorphose malgré tout ce qu'on peut dire, et bah voilà, on a envie d'y contribuer. Et c'est vrai que de pouvoir contribuer à l'éclosion de certains jeunes. Et puis en tout cas, même s'ils passent pas professionnels, c'est au moins on leur donne pendant un certain temps un certain but dans leur vie. On fait du social quelque part, mais voilà, ils sont pas en train de casser des abris le samedi soir, et ils ont un vrai ils ont un vrai but, une vraie passion, et puis on leur permet d'être touchés des limites qui vont leur servir dans leur vie de tous les jours. Donc pour moi c'était déjà une vraie bonne cause, et puis derrière on a envie de grandir forcément. Et
j'ai eu cette chance, Stéphane, je tiens à te féliciter parce que début de Tour on vous a vu. C'est fidèle à ta réputation, t'as envie d'aller de l'avant et tu lances tes coureurs dans la bataille sans peur.
Bah c'est déjà eux, hein. J'ai la chance, c'est que tout le matin au briefing c'est un vrai bon moment, parce qu'ils ont toujours envie. Je connais ça que depuis cette année. Les années passées on avait une stratégie un petit peu différente, et c'est vrai que ça colle pas forcément mon tempérament, mais voilà, c'était une stratégie qu'on avait adoptée. Cette année c'est beaucoup plus libéré et beaucoup plus facile de fonctionner comme ça, j'ai envie de dire, parce que voilà, chaque jour c'est une classique, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Pierre-Yves, qu'est-ce que c'est un leader aujourd'hui? Un leader c'est avant tout quelqu'un qui peut remporter le tour ou finir sur le podium. Après effectivement je dirais l'enjeu et la dépense d'énergie pour le reste de l'équipe par rapport à un coureur qui veut faire un classement général, c'est autant que ce qu'on fait aujourd'hui en étant d'une manière détachée de ce classement général.
Stéphane Hollot, le manager de la formation Sojasun, est avec nous ce soir. On est en direct depuis son hôtel. Un Breton a envie de te poser une question. Un Breton qui pose une question à un autre Breton. Cyril.
Oui, mais il n'y a pas de problème. Les Bretons peuvent se parler. Un Breton parle à un Breton. Oui, au départ du Tour, tu as dit nous n'avons pas de leader. Le leader, c'est l'équipe. Bon, alors c'est vrai, quand on n'a pas un grand leader, c'est le collectif qui va prendre le pas, ou le mouvement collectif qui va prendre le pas dans la stratégie de course. Est-ce que aujourd'hui tu restes sur la même philosophie?
Ah oui, complètement, complètement. Aujourd'hui, c'était la stratégie était claire. C'est vrai que on savait qu'on connaissait un petit peu l'issue de ce final encore aujourd'hui. De la même façon, quand Julien était devant avant-hier sur l'étape qui est
Saint-Malo,
l'étape où il y avait Saint-Malo, où il y avait le vent de face, c'est pas forcément réfléchi. Maintenant, il y avait une petite faille, et bon, je pense que quand certaines équipes de sprinteurs qui en auront marre de se faire arranger, ils vont peut-être laisser l'équipe, par exemple Argos, prendre plus de responsabilités tout au long de l'étape, il sera moins bien emmené, peut-être qu'ils pourront le battre, ou peut-être qu'ils vont lever leur cul pour les en échapper. C'est ça qu'on espère, en fait. C'est ça qu'on espère.
Mais il faut souvent attendre quasiment la troisième semaine, pour que les baroudeurs les échappent.
Ce que dit Stéphane, c'est quand même intéressant, c'est que aujourd'hui, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, toutes les équipes de sprinters vont à la barre.
Mm-hmm. Même les équipes de leaders.
Même les équipes de leaders. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se demande s'il n'y a pas une sorte de d'accord entre les équipes de sprinters, en disant bon, ok, on amène tout le monde et puis on laisse là nos quatre sprinters faire le sprint et on les regarde de derrière.
Mm-hmm. Très bien. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. On te souhaite une bonne fin de tour, évidemment. On souhaite que tu puisses aller décrocher.
Et comment il va le Max? Vite fait, Max Médérel.
Il apprend.
Coureur du Limousin. Voilà. Merci Stéphane Hollot d'avoir été avec nous.
Ciao.
Et bonne suite de tour.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.